Et c'est donc Mathieu Laurent pour le journal. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. France, États-Unis, divorce consommé, qu'est-ce qu'un allié ? Demande Emmanuel Macron. Sur le terrain, première conséquence du virage pris par la Maison-Blanche en Syrie, des mouvements de troupes turques en terre kurde, correspondance d'Istanbul. Les gilets jaunes et la parole politique en flagrant délit de radicalisation, l'exécutif et le porte-parole du gouvernement n'ont pas changé de lexique et répètent les termes de fascistes, racistes et homophobes. Ces propos et comportements existent mais sont surdimensionnés en plein essoufflement du mouvement. C'est le commentaire du sociologue Jean-François Amadieu. Invité de cette édition, le président des urgentistes français Patrick Peloux, à la veille d'une grève de 24 heures au SAMU de Seine-Saint-Denis. Quand le chef de l'État français commande des faits de politique intérieure américaine, Emmanuel Macron a en effet rendu hommage à Jim Mattis, ministre de la Défense démissionnaire, après la décision de Donald Trump de retirer les troupes spéciales américaines du nord de la Syrie, et le chef de l'État français, en visite au Tchad, de donner des leçons de bonne conduite à un allié défaillant.
Être allié, c'est combattre épaule contre épaule. Ça veut dire que vous acceptez que vos soldats combattent et prennent des risques aux côtés d'autres soldats et parfois qu'ils remettent leur vie dans la main des forces alliées. Et donc un allié se doit d'être fiable, de se coordonner avec ses autres alliés. La France continuera à être impliquée au Levant. Ce que nous devons à ceux qui se sont battus sur le terrain pour lutter contre les terroristes, ceux qui sur le terrain étaient armes au poing pour lutter contre les terroristes qui avaient fomenté des attentats contre Paris ou ailleurs, c'était les FDS. Et c'était les Kurdes en Syrie. Et donc j'appelle chacun à la responsabilité sur ce sujet et à ne pas oublier ce que nous leur devons.
Emmanuel Macron, vous l'entendez, ne se contente pas de cibler le président américain. Il n'aura pas oublié de mettre en garde son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, contre ce qui se profile. Une vaste offensive contre les forces kurdes en témoigne ces dizaines de blindés positionnés entre Jarabulus et Manbij. C'est une correspondance d'Istanbul de Marion Fontenil.
Ankara déploie actuellement des chars, des automitrailleuses, des obusiers et des autocars transportant des commandos. Ces informations proviennent de l'agence de presse turque DHA. Ce convoi de véhicules militaires s'est dirigé vers la province de Kilis à la frontière syrienne où une partie du matériel et des troupes doivent prendre position. D'autres informations, des images filmées par la chaîne de télévision turque TRT World, montrent une partie du convoi entrer en Syrie précisément dans une zone sous le contrôle de l'armée syrienne libre, les rebelles alliés à Ankara. Il se dirigerait vers Manbij, point de toutes les tensions, car malgré un accord passé entre la Turquie et les États-Unis en juin dernier, les milices kurdes du YPG, considérées comme terroristes par Ankara et jusqu'alors soutenues par les États-Unis, n'ont toujours pas quitté la ville. Cela fait plusieurs jours maintenant que le président turc Recep Tayyip Erdogan promet une offensive d'envergure dans le nord de la Syrie. Ankara souhaite se débarrasser des milices kurdes le long de sa frontière. Mais en réponse au président américain Donald Trump et à son annonce du retrait des soldats américains, Recep Tayyip Erdogan a également promis de poursuivre la lutte contre Daesh et annoncé le report de l'opération armée d'ici à quelques mois. La Turquie a déjà lancé deux offensives dans le nord de la Syrie, baptisées Bouclier de l'Euphrate et Rameau d'Olivier. Si cette troisième opération n'a pas encore de nom, cela n'empêche pas pour l'heure Ankara de mettre en scène les préparatifs de cette offensive qui, si elle a lieu, serait la troisième en 2 ans.
Les États-Unis ont également décidé de rapatrier d'Afghanistan une partie de leurs troupes, ce qui a conduit le président afghan à un remaniement majeur. Ashraf Ghani nomme au poste de ministre de l'Intérieur et de la Défense deux anciens hauts responsables du renseignement, résolument hostiles à toute concession avec les talibans. Donald Trump aux prises avec le troisième shutdown de son mandat, un shutdown qui pourrait s'étirer dans le temps, si l'on se fie à une déclaration du directeur du budget de la Maison-Blanche. Selon Mick Mulvaney, il est très possible que la paralysie budgétaire aille jusqu'au nouveau congrès, qui doit se réunir le 3 janvier, et ce, malgré la reprise des tractations sur le budget fédéral le 27 décembre. Plus de 220 personnes ont été tuées, plusieurs centaines d'autres blessées dans un tsunami provoqué par une éruption volcanique qui a déferlé sur les plages du détroit indonésien de la Sonde. C'est le dernier bilan en date livré par Jakarta. C'est un de ces lieux où s'affichent les thèses identitaires, des locaux associatifs ou encore des bars dont les antifascistes demandent la fermeture. À Lille, il s'agit de la Citadelle, un établissement visé par une enquête préliminaire après la diffusion par la chaîne de télévision Al Jazeera d'un documentaire. On y voit entre autres des clients trinquer au Troisième Reich ou encore se vanter de ratonnades. Cet après-midi, 300 personnes ont demandé la fermeture de la citadelle. Parmi elles, Isabelle, militante au nouveau parti anticapitaliste.
Ça avance pas assez vite, oui, c'est ce qu'on disait. On était là il y a 2 ans quand le bar a ouvert. Aujourd'hui, si la justice s'en mêle, pourquoi pas. Mais faut vite fermer ce lieu, quoi. Le reportage de Al Jazeera fait que confirmer ce qu'on pensait de la citadelle. On a toujours milité contre les identitaires de la région, quoi. Un lieu comme ça n'a pas existé. On peut pas propager ces idées-là. C'est dangereux pour la jeunesse. Ils insufflent des idées qui sont dangereuses. Pour la société. Quoi.
Isabelle, militante au NPA avec Hortense Crépin. Le parquet de Paris annonce lui l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire commise contre des policiers. Après l'agression en marge des manifestations de gilets jaunes de 3 fonctionnaires de police à moto, leurs agresseurs ne portaient pas le fameux gilet jaune selon les premières constatations. L'exécutif est monté au créneau, d'abord le Premier ministre et ensuite le chef de l'État qui a déclaré à N'Djamena que l'ordre devait régner, l'ordre et la concorde. À peu plus de 5 semaines de crise et l'état d'urgence économique et sociale décrété par le gouvernement, la radicalisation gagne du terrain et elle n'est pas réservée à certains gilets jaunes ou prétendus gilets jaunes. Le discours très ferme, voire violent du gouvernement n'est pas nouveau, mais il porte plus qu'hier à l'heure de l'essoufflement du mouvement, selon le sociologue Jean-François Amadieu.
Le discours qui est tenu par l'exécutif, que ce soit effectivement le président, Benjamin Griveaux, le ministère de l'Intérieur, tout l'argumentaire est finalement le même que celui qu'on trouvait au début du mouvement des Gilets jaunes. Mais au début du mouvement des Gilets jaunes, tout ce qui était dit sur le fait que l'extrême droite était présente, que l'antisémitisme, la xénophobie, l'homophobie étaient présentes, ou le racisme, tout ça ne collait pas par rapport à la réalité d'un mouvement qui était beaucoup plus large, évidemment, idéologiquement. Et donc, c'était jeter l'anathème sur un mouvement qui était un mouvement social. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est différent. Alors, il faudrait faire la part de ce qui est de ce qu'on a vu essentiellement à Paris, à Montmartre, et ce qui s'est passé en province. Alors en province, certes, il y a l'épisode de la décapitation, mais sinon, dans les villes de province, on a observé depuis 2 samedis qu'il y a un mouvement qui se poursuit avec davantage de diversité. On ne peut pas dire que ce soit un mouvement raciste, antisémite, ou que l'extrême droite soit à la manœuvre, ou l'ultra-droite. À partir de maintenant, dans la mesure où beaucoup moins de monde est mobilisé, que ce soit à Paris ou en province, il est certain que ça permet à l'exécutif de pouvoir faire preuve de fermeté à l'égard de ceux, on pense à Éric Drouet, qui déclenche des manifestations qui n'ont pas été autorisées. Il y a quelques semaines, cette stratégie visant à stigmatiser le mouvement, à le caricaturer comme un mouvement fasciste des années 30, ce discours-là ne passait pas, il était même contre-productif. Aujourd'hui, il reste décalé par rapport à la réalité de la province, mais pour beaucoup, évidemment, ce qui s'est passé dans Paris, évidemment, apporte de l'eau à moulin, mais correspond davantage à ce qui est dit. À l'heure actuelle, il est plus facile pour l'exécutif de tenir ce discours parce que le mouvement est en fin de cycle. Peut-être qu'il reprendra, mais incontestablement, il a perdu de son ampleur et il est certain que du coup, ce type d'attaque sur la nature du mouvement est plus facile. Alors cela dit, avec un écueil, il va falloir voir ce qui se passe. Si l'exécutif choisit une stratégie de pénalisation, en l'occurrence, on peut penser à Éric Drouet, il est tout à fait possible que ça conduise à des effets de remobilisation, comme on l'observe classiquement dans les mouvements sociaux, à partir du moment où il y a des sanctions contre un certain nombre de leaders.
Des propos recueillis par Laura Dulieu. Éric Drouet, que citait Jean-François Amadieu, est l'un des porte-paroles autoproclamés des Gilets jaunes, interpellé hier à Paris pour participation à un groupement violent. La crise sociale larvée, chronique dans les services d'urgence, est particulièrement en Seine-Saint-Denis avec un préavis de grève des agents du SAMU, préavis de 24 heures à compter de demain. Bonsoir Patrick Peloux.
Bonsoir.
Vous êtes président des urgentistes français. Patrick Peloux, on a appris cet après-midi, vous devez le savoir, que l'agence régionale de santé allait débloquer 2,4 millions d'euros pour les 8 SAMU d'Île-de-France. Voilà la réponse, peut-être en amont de votre mouvement.
C'est certainement une réponse et je pense que justement c'est une réponse qui est intéressante et qui prouve que l'Agence régionale de santé a compris l'urgence de traiter le problème au niveau des SAMU, oui.
Alors depuis quand et de quelle pénurie, de quel dysfonctionnement parlez-vous ?
En fait, si vous voulez, le système du SAMU qui a été créé au fil des années, depuis les années 70, en fait, n'a pas vu progresser la fréquentation du nombre d'appels. On est passé de quelques millions d'appels au SAMU dans les années 80 à près de 28 millions d'appels il y a deux ans au niveau des SAMU. Et en même temps, il y a des exigences scientifiques qui sont réelles. S'il y a un arrêt cardiaque, on sait qu'il faut on apprend d'ailleurs aux gens par des campagnes d'information qu'il faut téléphoner au SAMU rapidement pour intervenir. On voit des campagnes régulières disant la douleur thoracique, appeler le SAMU, ça peut être un infarctus. On voit récemment des campagnes nationales disant appelez le SAMU parce que vous risquez de faire un accident vasculaire cérébral. Malheureusement, ce qu'on voit nous et ce qu'on dit depuis des années, c'est que d'un coup, on n'a pas les moyens en personnel pour décrocher l'appel des requérants rapidement. C'est-à-dire qu'il y a une mission de service public et une exigence scientifique qu'on a mis sur l'établi du service public. Et puis, vous avez, dans les faits, de moins en moins de personnel et des personnels qui se mettent en grève demain pour dire « mais on peut pas travailler dans telles conditions ».
Patrick Pelloux, est-ce que les urgences de Seine-Saint-Denis souffrent plus que les autres ?
Oui.
Pourquoi ?
En ce sens que c'est un département qui se chope la crise sociale de plein fouet avec des facteurs multiples de chômage, d'accès aux soins rendus difficiles, puisque c'est le département de France où vous avez le moins de médecins généralistes. Donc c'est extrêmement difficile. Ce qui fait que pour nous, ce SAMU, ce centre d'appel, est devenu le recours de l'accès aux soins. Donc il faut le protéger. Et je pense que c'est un amortisseur de la crise sociale pour la Seine-Saint-Denis. C'est ce que les pouvoirs publics, avec l'agence régionale de santé, à mon avis, commencent à comprendre. Et c'est pour ça qu'ils ont débloqué des financements exceptionnels, que l'on souhaite pérennes, parce que ce qu'on réclame, avant toute chose, c'est de créer des emplois pour répondre au téléphone rapidement et assumer cette charge de travail qui est la charge de travail en urgence.
Puisqu'on y revient, 2,4 millions d'euros pour les 8 SAMU d'Île-de-France. C'est conséquent ? C'est une amorce ? Comment seriez-vous prêt à qualifier la somme, le montant ?
Non, c'est-à-dire ça fait à peu près 300 000 euros par SAMU, ce qui représentera peut-être 5 à 10 emplois de permanenciers en plus. Ce qui est important, de fait, mais le problème, c'est que c'est une enveloppe pour cette année, c'est-à-dire juste pour l'année. C'est pas un budget pérenne. D'autre part, ce qu'on craint, parce que les hôpitaux, dans leur globalité, vont très très mal, c'est que cet argent parte dans la culture du déficit, parce que les hôpitaux aussi sont touchés par cette culture de « il faut boucher un trou que personne ne voit et qui est de la culture du déficit ». Donc, on espère que cet argent arrivera, parce que généralement, quand les pouvoirs publics disent qu'on va donner 100 millions, et ben sur le terrain, on se retrouve qu'avec 20% de la somme. Quoi. C'est ça le problème. Et puis, dernier point qui est important, c'est
d'un mot, oui.
On est indissociable de la crise globale de l'hôpital.
J'allais y venir. Alors justement, comment vous inscrivez-vous justement dans cette globalité difficile qui est celle dont souffre l'hôpital dans son ensemble ?
Dans son ensemble, on est à la fin d'un système. C'est-à-dire, on est débordé par des demandes des malades et des moyens qui ne sont pas en conséquence. Il y a eu des articles par des collègues, dont Sophie Croisier dans Libération la semaine dernière, qui reflètent bien ça. C'est-à-dire, tous les secteurs maintenant vous disent qu'on est dans une crise absolument majeure dans les hôpitaux. Et donc, je pense, notamment pour les urgences, qu'il faut inventer un nouveau modèle. Parce que c'est si vous voulez, le côté...
D'un dernier mot, toujours, Patrick Pelloux, oui.
Voilà, on demande toujours plus de moyens. En fait, si on repense pas une certaine forme de modernité et une reconstitution... Une
restructuration.
Reconstitution du service public, on n'y arrivera pas.
Bien, merci de vos paroles, Patrick Pelloux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelques mots de la météo avant de refermer cette édition. Le temps de demain, pluvieux de la Bretagne au centre-est, tandis qu'à l'arrière, dans le nord du pays, le temps sera plus frais. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.